RFI 23h30 à Paris, 22h30 en temps universel.
Afrique Soir.
Et Afrique Soir, c'est avec Sylvie Berruet. Bonsoir.
Bonsoir Christophe, bonsoir à tous. À la une de cette édition, le Soudan, le chef de l'armée, le général Al-Bourhan, annonce la libération de Khartoum. Un peu plus tôt, l'armée avait affirmé avoir repris le contrôle de l'aéroport, un site stratégique occupé depuis le début de la guerre par les FSR, les forces de soutien rapide. Le chef de la junte militaire au Niger, le général Tchiani, proclamé président de la République pour au moins 5 ans, il avait renversé le président élu, Mohamed Bazoum. C'était lors d'un putsch en juillet 2023. Paris accueille ce jeudi le 4e sommet Nutrition pour la croissance. Comment lutter contre la malnutrition en Afrique dans un contexte marqué par la baisse des financements? Ce sera le dossier d'Afrique Soir. Enfin, au Malawi, le Fonds international pour la protection des animaux poursuivi en justice en cause des éléphants déplacés dans le pays. Ils auraient tué au moins 10 personnes. Après le palais présidentiel, l'aéroport au Soudan, l'armée menée par le général Al-Bourhan reprend du terrain à Khartoum. Khartoum qui est libéré, annoncé ce soir le chef de l'armée à la télévision nationale. Cette libération annoncée est le point culminant de la reconquête de Khartoum. Walid Diallo.
Une avancée significative, donc un nouveau revers pour les hommes du général Daglo, dit Emeti, dont l'empreinte dans la capitale se réduit de jour en jour. Selon l'anthropologue Clément Desailles, on assiste à l'aboutissement d'une offensive débutée depuis septembre.
Ces derniers jours, le temps s'est un petit peu accéléré puisque l'armée avait réussi à reconquérir le centre-ville de Khartoum qui était tenu depuis le début du conflit par les forces de soutien rapide. Et ce qui se déroule aujourd'hui a l'air d'être une fuite complète des RSF de la ville de Khartoum.
Le succès de cette offensive, l'armée du général Al-Bourhan la doit aussi aux milices venues grossir ses rangs depuis le début du conflit. Une réorganisation de l'armée qui, toujours selon Clément Desailles, aurait permis de renverser le conflit.
En fait, l'armée a eu recours à ce qu'ils ont toujours fait avant, c'est-à-dire que l'armée existe, elle a des forces, mais à côté des forces, on utilise des proxys, des paramilitaires, des forces miliciennes diverses pour mener les offensives. Tout un agrégat de forces qui se sont alliées et qui soutiennent l'effort de guerre. Donc c'est quelque chose qui est assez inquiétant parce que tout le monde a recours aux milices, tout le monde a recours à des proxys qu'ils arment, qui sont relativement autonomes et qui sont relativement peu contrôlables sur le long terme.
Selon l'armée soudanaise, les paramilitaires ont traversé le Nil Blanc mercredi soir afin de rejoindre l'est du pays, direction le Darfour, l'une des dernières régions toujours sous leur contrôle.
Dans l'actualité également, la République démocratique du Congo, cela fait exactement 2 mois que la ville de Goma est passée sous le contrôle du groupe rebelle AFC M23. Depuis, toutes les banques commerciales sont fermées sur instruction des autorités de Kinshasa. Conséquence, dans cette ville de plus d'1 million d'habitants, les guichets sont inaccessibles, les devises rares et l'économie locale très perturbée. Alors face à cette situation, certains opérateurs parviennent à effectuer des retraits via des distributeurs automatiques situé au Rwanda voisin ou utilise encore des moyens de transfert électronique, mais les opérations traditionnelles comme par exemple les dépôts ou les retraits d'argent en agence ne sont plus possibles et c'est dans ce contexte que l'AFC M23 veut créer son propre système financier. Explication Patient Ligoti.
L'AFC M23 prévoit de mettre en place une structure parallèle baptisée Autorité de régulation du secteur économique, financier et des assurances. D'après les informations de RFI, cette structure est déjà créée sur papier. Elle devrait jouer le rôle d'une banque centrale dans les zones sous contrôle de l'AFC M23. Le mouvement politico-militaire soutenu par Kigali souhaite également réactiver la CADECO, une institution financière publique congolaise considérée par plusieurs experts comme quasiment à l'arrêt. La rébellion a nommé une direction parallèle avec l'objectif d'en faire la principale banque de la zone sous son contrôle. Les recettes fiscales collectées par l'administration de l'AFC M23 devraient y être versés. Des consignes ont été données aux changeurs de monnaie et aux opérateurs économiques locaux pour ouvrir des comptes au sein de cette structure. Mais ce système se heurte à plusieurs obstacles majeurs selon les experts contactés par RFI, notamment l'absence de connexion aux banques de correspondance internationale et les restrictions du GAFI, l'organisme international de lutte contre le blanchiment d'argent. De son côté, l'AFC M23 envisage de s'appuyer sur des pays voisins, principalement le Kenya, le Rwanda ou encore l'Ouganda. Mais une question se pose, ce projet peut-il vraiment voir le jour? Tout dépendra, répond un expert, du degré d'isolement international de l'AFC M23 et de la réaction des pays et banques de la région.
Patient Ligodi, vous écoutez RFI, c'est Afrique Soir, 23h35, ici à Paris, au Niger. La charte de la refondation a été promulguée. Aujourd'hui, elle reprend les conclusions et les recommandations des assises nationales qui se sont tenues en février à Niamey. Cette charte qui a valeur de constitution, selon les termes officiels, permettra aux militaires de se maintenir au pouvoir pour au moins 5 ans. Et dans le même temps, le chef de la junte, Abdourahmane Tiani, a été officiellement investi président de la République et promu général d'armée. 5 étoiles, Lisa Fabian.
La promulgation de la charte de la refondation du Niger a donné lieu à une cérémonie d'investiture en forme d'autopromotion pour le général Abdourahmane Tchani.
Il s'agit de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, chef de l'administration.
Le chef de la junte pourra occuper ses nouvelles fonctions pendant au moins 5 ans, puisque la charte, qui a valeur constitutionnelle, fixe la période de la transition à 60 mois, modulable en fonction notamment de la situation sécuritaire au Niger. Abdourahmane Tchani s'est engagé en faveur de l'unité.
Je tiens à réitérer mon engagement solennel à toujours œuvrer pour le pardon et la réconciliation entre Nigériens, pour l'unité nationale.
D'autres mesures ont été définitivement adoptées ce mercredi, a annoncé le secrétaire général Mahamane Roufaï Lawali.
Le général d'armée Abdourahmane Tchani a signé ce jour mercredi 26 mars une ordonnance relative aux partis politiques. Au terme de cette ordonnance, les partis politiques sont dissous. Le général d'armée Abdourahmane Tchani ordonne la mise en œuvre de la recommandation ici des assises nationales relative à la mise en liberté de certaines personnes prévenues ou condamnées, civiles et militaires.
La charte prévoit encore que l'installation de bases militaires étrangères au Niger fasse désormais l'objet d'une consultation populaire.
En bref, le Sénégal, endeuillé par la disparition de l'avocat Cheikh Kouressi Ba, décédé ce mercredi à Istanbul des suites d'une longue maladie. Le Sénégal perd un avocat de talent et un homme de principe, s'est ému le président Bassirou Diomaye Faye sur les réseaux sociaux, alors que Cheikh Kouressi Ba est connu pour avoir défendu le chef du PASTEF et actuel Premier ministre Ousmane Sonko dans plusieurs procès. Au Mali, il y a tout juste 3 ans, survenait le massacre de Moura. Il débutait car l'opération de l'armée malienne et de ses partenaires russes du groupe Wagner dans ce village du cercle de Djéné s'est étendue sur 5 jours. 5 jours d'horreur pendant lesquels plus de 500 personnes ont été tuées. Un bilan jamais reconnu par les autorités maliennes de transition qui n'ont pas donné suite à leurs promesses d'enquête et de justice. David Baché.
Pour les autorités maliennes de transition, Moura, c'est une opération militaire de grande envergure, menée avec professionnalisme, au cours de laquelle 203 personnes, toutes terroristes, ont été neutralisées. Pour les habitants de ce village, ce sont 5 journées d'apocalypse. Plus de 500 personnes exécutées sommairement, dont des femmes et des enfants, jetées dans des fosses communes que les villageois ont eux-mêmes été obligés de creuser. Au moins 58 femmes et jeunes filles violées ou victimes de violences sexuelles, parfois collectivement. Plusieurs dizaines de personnes interpellées à Moura ont ensuite été torturées dans les camps de l'armée malienne ou dans les locaux de la sécurité d'État. Des informations confirmées par le travail de nombreux journalistes, défenseurs des droits humains et par un rapport extrêmement fouillé des Nations Unies. Sur les plus de 500 personnes tuées à Moura, le rapport onusien établit qu'une 30aine seulement étaient des combattants djihadistes. Le tribunal militaire de la région de Mopti avait promis des investigations approfondies. Elles n'ont jamais eu lieu. Il faut dire que l'état-major des armées avait déjà jugé infondées toutes les allégations d'exaction. Depuis, des massacres d'une telle ampleur ne se sont plus produits au Mali, mais les exécutions de civils par l'armée et Wagner n'ont jamais cessé.
David Baché, tout de suite sur RFI, le dossier d'Afrique Soir.
Afrique Soir sur RFI.
Le 4e sommet Nutrition pour la croissance s'ouvre ce jeudi à Paris et à la veille de son ouverture, le village des solutions, comme on l'appelle, a accueilli le public. Objectif, sensibiliser aux enjeux de la malnutrition et mettre en lumière les réponses possibles en Afrique, notamment dans un contexte mondial marqué par la baisse des financements. Les acteurs sur le terrain continuent de se mobiliser. Christina Okello.
La malnutrition, c'est quand notre aliment...
C'est une voie de robot qui accueille les visiteurs au village des solutions à Paris. Une manière ludique d'aborder une dure réalité. Chaque année, 3 millions d'enfants meurent de malnutrition. Un paradoxe, selon Benjamin Dégachon de la Fondation Hélène Kruk.
On est dans une époque où on investit des milliards dans l'intelligence artificielle. On est capable de dialoguer avec des robots. Et malheureusement, on n'est toujours pas capable de mettre fin à la malnutrition. Donc on veut pointer par ce robot aussi ce paradoxe et ce scandale de la malnutrition qui mérite la volonté politique et les financements nécessaires pour mettre fin à ce fléau.
Une urgence qui concerne particulièrement l'Afrique. Au Burkina Faso, près de 10% des enfants souffrent de malnutrition aiguë. Et au Mali, les mauvaises habitudes alimentaires aggravent le problème. Pour Issouf Traoré, du réseau des organisations de la société civile pour le renforcement de la nutrition, il faut revenir à l'essentiel.
Quand on était petit, et quand tu partais chez ta grand-mère, tu avais toujours quelque chose à grignoter. Donc tu avais juste un mec qu'on appelle le didégué, à base d'arachide, du miel. Après, il y a d'autres aliments à base de mil. Mais maintenant, tu poses la question à certaines dames de notre génération, elles ne connaissent pas. Ou elle ne peut pas les préparer. Donc sûrement ces mets traditionnels étaient très riches en micronutriments, étaient très riches en éléments, n'est-ce pas, qui permettaient de prévenir la malnutrition.
Pour ces acteurs africains, la solution est aussi culturelle, réconcilier modernité et tradition pour bâtir une nutrition durable.
Et donc les acteurs sur le terrain comme l'UNICEF appellent les gouvernements à ne pas baisser les bras et à rester ambitieux malgré les manques de moyens. Baptiste Chapuis est responsable à l'UNICEF France. Il nous présente des solutions efficaces et peu coûteuses. Il répond à Christina Okello.
Pour lutter contre la malnutrition, notamment la malnutrition aiguë et sévère, des solutions simples, prêtes à l'emploi, existent. Ici, on a des sachets, par exemple, de RUTF, donc d'aliments thérapeutiques prêts à l'emploi. On a des MMS, donc c'est des compléments alimentaires vitaminés, notamment pour les femmes enceintes et allaitantes. Du moment où la femme est enceinte et allaitante jusqu'aux 2 ans de l'enfant, c'est cette fenêtre-là sur laquelle il faut agir parce que ça va être le moment où l'enfant va développer ses capacités cérébrales et cognitives et qui vont être déterminantes pour la totalité de sa vie.
Par exemple, cette pâte d'arachide, est-ce que vous avez des chiffres qui prouvent qu'un certain nombre de femmes ont pu s'en sortir grâce à ça ?
En 1990, vous aviez à peu près 40% des enfants qui souffraient de malnutrition sévère. Ce chiffre est passé à 22% en 2020. Ce qui montre que quand la communauté internationale, les États au premier chef, mais aussi les bailleurs de fonds, les organisations internationales, les ONG se rassemblent et investissent dans la lutte contre la malnutrition, c'est toute la société, la communauté internationale qui en bénéficie parce qu'aujourd'hui en 2025, la malnutrition continue de tuer et en particulier des enfants de moins de 5 ans.
Et comment la malnutrition touche en particulier le continent africain ?
Sur les 15 États qui sont les plus touchés par la malnutrition la plus sévère, 12 sont issus d'Afrique subsaharienne. Vous avez bien évidemment le Soudan, la République démocratique du Congo, mais aussi d'autres États comme l'Éthiopie par exemple. Et ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que le contexte peu favorable, effectivement aujourd'hui c'est un vent contraire, les coupures des aides publiques au développement, notamment états-uniennes, mais aussi européennes, françaises, anglaises, allemandes ou hollandaises, aujourd'hui auront des conséquences directes sur des millions d'enfants dans le monde. Deux exemples par exemple, dans la région de Maïdougouri au Nigeria, c'est 80 000 enfants qui n'auront plus accès à des aliments thérapeutiques prêts à l'emploi. C'est 75 000 enfants dans la région d'Afar en Éthiopie qui n'auront plus accès à des cliniques mobiles qui apportent des soins nutritionnels et de santé, notamment de vaccination. Donc aujourd'hui, l'urgence elle est immédiate et si on ne veut pas avoir un coût absolument exceptionnel, en particulier porté par les enfants et qui sera porté en vie humaine dans les mois qui suivent, il faut investir massivement et on attend les États, dont la France au tournant, demain lors du sommet Nutrition for Growth.
Baptiste Chapuis, responsable à l'UNICEF France, avec Christina Okello. Au Malawi, une ONG, le Fonds international pour la protection des animaux, est poursuivie en justice par plusieurs personnes qui vivent près du parc national de Kasungu, le deuxième parc plus grand du pays, en cause des éléphants déplacés qui auraient tué au moins une dizaine de personnes. Les plaignants ont saisi un cabinet d'avocats britannique pour porter l'affaire devant la Haute Cour d'Angleterre. Juliette Pietraszewski.
Au total, 10 personnes ont porté plainte contre l'ONG IFO. Les plaignants, dont l'identité n'a pas encore été révélée, assurent craindre pour leur sécurité et parlent d'une augmentation importante des conflits entre humains et animaux sauvages. Le journal britannique The Guardian rapporte le témoignage d'un agriculteur zambien ayant passé 4 mois à l'hôpital après s'être fait charger par plusieurs éléphants au moment où il traversait sa ferme. Parmi les demandes des plaignants à l'ONG IFO, des indemnisations et la clôture du parc, certains précisent qu'ils sont eux aussi pour la protection des éléphants et que leur démarche restera pacifique. scientifique. De son côté, IFO se dit attristée par les cas de conflits entre l'homme et la faune sauvage. Elle précise que les normes internationales ont été respectées à Kasungu et que son rôle était de fournir un soutien financier et technique au département des parcs nationaux et de la faune sauvage du Malawi. Un soutien comprenant la surveillance des clôtures physiques et virtuelles. Enfin, l'ONG rappelle que le gouvernement du Malawi a la responsabilité globale des parcs nationaux.
RFI, minuit moins le quart ici à Paris. Le football, c'est une rumeur qui a agité la toile en Côte d'Ivoire, mais aussi le reste du continent africain. La Côte d'Ivoire aurait annoncé se désister de l'organisation de la CAN des moins de 20 ans de foot, qu'elle devait organiser du 26 avril au 18 mai. Mais pour le moment, rien n'est officiellement acté, comme nous le dit depuis Abidjan, Youen Gourlay.
Ce mercredi matin, un texte signé de la FIF, la Fédération Ivoirienne de Football, à destination des membres du COCAN, le comité d'organisation de la CAN U20, a circulé sur les réseaux sociaux et dans les médias. Il expliquait que le gouvernement ivoirien avait annoncé que la Côte d'Ivoire se désistait de l'organisation de la CAN U20. Le texte dit aussi que la CAF, la Confédération Africaine de Football, a été prévenue de cette décision. Une lettre interne aux instances donc, mais qui a fuité et a été reprise par l'ensemble de la presse sportive ivoirienne et internationale. Du côté de la Fédération Ivoirienne, un haut placé explique que la lettre aurait fuité délibérément pour mettre un coup de pression à la CAF. Mais pour l'heure, on ne sait pas encore pour quelle raison l'État ivoirien a fait cette annonce à la FIF. Certaines sources évoquent des questions budgétaires. On se souvient que quelques jours avant la CAN, organisée l'an dernier en Côte d'Ivoire, la CAF avait demandé au gouvernement de payer les primes des sélections qualifiées pour la compétition, ce qui avait provoqué des tensions au sein des instances du foot ivoirien. Mais pour le moment, la FIF et la CAF ont assuré que le désistement de la Côte d'Ivoire n'était pas officiel. Youen Gourlay, Abidjan, RFI.
Et puis le journal L'Équipe a publié son numéro spécial sur les salaires des joueurs du championnat français. Un numéro toujours très attendu. Et cette année, le joueur le mieux payé, l'attaquant du Paris Saint-Germain, Ousmane Dembélé, avec 1,5 million. Ousmane Dembélé, loin derrière les 6 millions de Kylian Mbappé, numéro 1 la saison passée. Et dans ce classement, on retrouve plusieurs internationaux africains. Solène Ravenel.
Achraf Hakimi est l'international africain le mieux payé de Ligue 1, aujourd'hui un des meilleurs défenseurs de la planète. Le Marocain monte sur le podium en troisième position, derrière ses coéquipiers du Paris Saint-Germain, Ousmane Dembélé et Marquinhos. Avec un salaire tout juste au-dessus du million, 1 100 000 euros par mois, il est devenu le latéral droit le mieux payé au monde après sa prolongation en février. Dans le classement, on retrouve trois autres joueurs africains. D'abord deux Marseillais, l'Algérien Ismaël Benasser, tout juste arrivé dans le club phocéen lors du mercato hivernal, et le centrafricain Geoffrey Kondogbia. Ils sont tous les deux à 450 000 euros par mois et dans les 5 plus gros salaires de l'Olympique de Marseille. Juste en dessous, avec 400 000 euros, on retrouve le néo-rennais Seko Fofana, arrivé du club saoudien Al Nasser en janvier. L'Ivoirien a dû baisser ses prétentions salariales, mais a reçu une compensation de plusieurs millions de la part du club saoudien. Il est le joueur le mieux payé du Stade Rennais, à égalité avec Brice Samba.
Afrique Echo nous emmène en Afrique du Sud où la ville du Cap abrite le plus grand constructeur de bateaux du pays. Premier fabricant de catamarans de croisière de l'hémisphère sud, l'entreprise Robertson & Kane appartient depuis quelques années à une société internationale d'investissement. Elle est basée en République tchèque et l'ambition c'est de continuer à exporter dans le monde entier tout en restant basée au Cap qui offre de nombreux avantages. Reportage Valentin Hugues.
C'est une succession de gigantesques hangars, les outils résonnent et l'air sans la peinture.
Une fois que la forme du bateau est dessinée, on la façonne ici.
Face à nous, un moule immense, si grand qu'il faut monter plusieurs marches pour voir l'intérieur. Nous sommes avec Stuart Forrest, ingénieur en chef.
Ensuite, il faut retirer le moule et sortir cette grande pièce principale pour passer aux étapes suivantes.
Après 34 ans d'activité, Robertson & Kane fêtera bientôt la sortie de son 3000e bateau, qui est là quelque part au milieu de la quinzaine de catamarans alignés les uns derrière les autres. Nous sommes dans le hangar d'assemblage du produit phare de Robertson & Kane, le Léopard 53PC.
La ligne de production évolue, on ajuste les procédures de construction pour trouver l'enchaînement le plus efficace, avec un séquençage. Ici, Nassief supervise l'étape 3.
Oui, on intègre le moteur, on installe les sièges, la moquette et on s'occupe du plafond aussi.
Une entreprise attachée au fait main et un travail collectif qui rassemble plus de 2000 personnes. Ici, c'est comme une ville dans la ville avec de grandes allées et du monde partout.
Là, nous sommes presque au bout de la chaîne. On peut aller voir une des cabines.
Il faut 3 mois pour construire ces gigantesques catamarans à moteur d'une valeur de plus d'1 million d'euros.
Là, vous avez la chambre. Ce bateau va quitter l'usine la semaine prochaine. Ensuite, on fera tous les tests de vérification au port et il sera prêt à être affrété vers un autre pays.
Vers un autre pays, car 99% de la production est exportée, principalement vers les États-Unis et vers l'Europe. Théolouk a pris les rênes de l'entreprise en 2021.
Au Cap, il y a une excellente articulation de l'industrie maritime avec de nombreux fournisseurs, pour les moteurs par exemple. C'est un port stratégique pour importer des produits dont nous manquons et exporter ce que nous fabriquons. Nous avons aussi la chance d'avoir une municipalité qui nous soutient en favorisant de bonnes infrastructures. La population se passionne pour les bateaux et veut se former dans ce domaine. Ce sont tous ces éléments qui nous permettent de fabriquer nos bateaux au Cap.
Depuis le retour de Donald Trump et de sa politique protectionniste aux États-Unis, Robertson & Kane agit activement pour encourager les accords commerciaux entre les deux pays et faire en sorte que les exportations ne faiblissent pas. Valentin Hugues, de retour du Cap, RFI.
Et c'est le moment de retrouver Pierre Vallée pour notre rendez-vous musique. Bonsoir Pierre.
Bonsoir Sylvie, bonsoir à tous.
Et on va parler ce soir d'un musicien brésilien.
Oui, je voulais vous parler de Tigana Santana, un musicien originaire de Salvador de Bahia, mais surtout un musicien à la recherche de ses racines afro-brésiliennes. Il a d'ailleurs soutenu une thèse en philosophie sur la cosmologie bantoue. Une recherche qui l'a conduit tout naturellement en Afrique, et en particulier à Dakar, à Conakry et à Bamako, où il a pu mélanger sa guitare à 5 cordes aux instruments traditionnels comme le riti, le ngoni ou la flûte toshoro.
Et au-delà de la musique, hein, Pierre, il interprète aussi ses textes dans des langues africaines.
Oui, des chansons afro-folk brésiliennes interprétées en anglais, portugais, kikongo, kibundu et en wolof, ce qui est assez rare, peut-être même unique dans la musique brésilienne. Et même si le Brésil transparaît toujours dans sa musique, il est assez loin de la samba ou de la fièvre du carnaval. Lui, il préfère les ambiances intimistes qui convoquent la spiritualité, et d'ailleurs sur scène, il joue toujours vêtu de blanc, comme les adeptes du candomblé, le culte des anciens esclaves.
Alors, quelle est l'actualité de Tigana Santana?
Eh bien, son actualité, Sylvie, c'est qu'il sera en concert à Paris ce vendredi, le 28, au Paris Music Factory, dans le 18e. Et pour vous donner envie, je vous propose tout de suite d'écouter le morceau Sobo Badé. Oh,
Brésilien Tigana Santana, musicien originaire de Salvador de Bahia. C'était la découverte et le coup de cœur de Pierre Vallée ce soir pour refermer cette dernière édition d'Afrique Soir. Merci à vous pour votre fidélité et merci également à Jonathan Brady à la réalisation ce soir. Restez à l'écoute, l'info revient dans quelques instants sur la Radio du Monde. Bonne fin de soirée.
RFI. La sélection du mois.
Sean Couty.
Young soul had a big dream stored away in the basement. Well, to fly and become a man. I'm on my way.
RFI Musique.
Demain. Sur RFI, sur le Pont des Arts, Nathalie Amar.
Elle a été une pionnière du féminisme et de la lutte pour l'abolition de l'esclavage. Olympe de Gouges, figure de la Révolution française, condamnée pour trahison, elle est Olympe, sous les traits de la comédienne Firmine Richard, dans le spectacle de Franck Salin. Ils seront nos invités.
Sur le Pont des Arts, avec Nathalie Amar, du lundi au vendredi à 15h10 TU, sur RFI.
Priorité santé.
Chantal Laureau vous invite à poser vos questions sur les thèmes de cette semaine. Demain.
Quelle attitude adopter face à un interlocuteur agressif? Ça s'apprend.
Vendredi.
Question de femme avec Laurence Garcia, l'endométriose.
Contactez-nous sur WhatsApp au 33 7 61 18 46 41 ou à priorité.santé@rfi.fr.
Priorité santé avec Sono Assurance.
Du lundi au vendredi à partir de 9h10 TU sur RFI.